Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, une saison un peu particulière puisqu'il s'agit du 40e anniversaire de l'émission et nous l'entamons avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI.
Bonjour.
Alors Gabriel Attal, vous êtes bien loin d'avoir l'âge de cette émission et pourtant, à 31 ans, vous en êtes à votre deuxième portefeuille ministériel et celui que vous avez décroché en juillet n'est pas le plus facile, loin de là, porte-parole du gouvernement. Le pire job de ministre, disent certains de vos collègues et de vos prédécesseurs, car à vouloir défendre la politique du gouvernement, quoi qu'il en coûte, eh bien plane toujours le risque de la langue de bois, d'aucuns diront même la langue de béton. Nous comptons donc sur vous pour ce premier grand jury en tant que porte-parole, Gabriel Attal, pour que vous répondiez le plus sincèrement possible à nos questions, qui sont aussi celles de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. Et l'avantage avec un porte-parole, qui n'en est pas forcément un pour vous, reconnaissons-le, c'est que vous êtes multicarte et que nous pouvons donc passer en revue tous les sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine et ceux à venir. Nous parlerons donc aussi bien du Covid que de l'insécurité qui préoccupe les Français. Je rappelle que cette émission est bien sûr en direct et que vous pouvez réagir en direct, hashtag le grand jury. Marie-Pierre Haddad de RTL.fr nous rejoindra en fin d'émission pour relayer ses questions et être invité. Et vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles, la question en plus, question express et une petite nouvelle à l'occasion des 40 ans de cette émission. Retour instantané, une séquence archive en toute fin d'émission. On commence tout de suite, bien sûr, avec la pandémie et la crainte d'une seconde vague. Marion Mourgue.
Vendredi, le ministère de la Santé annonçait une hausse exponentielle du nombre de cas de coronavirus en France. Alors, est-ce que ça y est, on est dans cette seconde vague qu'on redoutait depuis des mois ?
Il y a une hausse des nombres de cas qui est continue et importante depuis le début, la moitié de l'été. Au tout début de l'été, je crois, autour de la mi-juin, après le déconfinement, on avait en moyenne 3000 nouveaux cas par semaine. On a aujourd'hui en moyenne 30 000 nouveaux cas par semaine. Alors il y a un effet loop parce qu'on teste beaucoup plus, et c'est heureux. Je peux d'ailleurs vous annoncer qu'on a franchi hier la barre historique des 900 000 tests réalisés en une semaine, ce qui est énorme. Il faut se rendre compte d'où on vient. Au début, on testait 50, 100 000, 150 000 personnes par semaine. On a testé 900 000 personnes sur la dernière semaine. Et on approche, comme l'a dit Olivier Véran, du million. Et mais il n'y a pas qu'un effet loop. Il y a aussi le virus qui s'est mis à circuler de manière plus importante pendant l'été, ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant, qu'il faut être extrêmement prudent. Mais surtout, moi, le message que je veux faire passer, qui est le message du gouvernement, c'est que tout est entre nos mains et entre nos masques. On peut encore agir pour empêcher une deuxième vague et pour empêcher de revenir à une situation telle qu'on l'a connue en mars
mais
dernier.
Si vous nous dites que cette seconde vague n'est pas encore là. Est-ce qu'elle va se prononcer? Est-ce qu'elle sera là dans quelques semaines, plutôt à l'hiver? C'est à ce moment-là que vous l'attendez, au moment où la grippe hivernale arrivera également?
Je veux dire, on a un des enseignements de cette crise, je pense, je peux l'avoir en tant que porte-parole, c'est que c'est très difficile de dire à l'avance ce qu'il en sera. C'est très difficile d'annoncer des choses comme définitives, alors qu'on voit que non seulement la situation évolue et que la connaissance qu'on a du virus évolue aussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de cas qui sont détectés. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qu'on fait. Et en l'occurrence, on prend beaucoup de mesures pour limiter au maximum cette augmentation.
Gabriel, vous parliez à l'instant des 900 000 tests. C'est heureux de savoir qu'on teste beaucoup. Mais les images qu'on voit à Paris et dans d'autres villes, c'est qu'il y a encore beaucoup de files d'attente, des délais qui sont parfois un peu longs. C'est très variable, très disparate. Comment est-ce que vous allez régler ce problème? Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de réactifs, pas de pénurie de personnel, sauf qu'il y a les files d'attente.
Il y a des files d'attente importantes et qui le sont d'autant plus dans les grandes villes en cette rentrée qu'on invite les Français à se faire tester en retour de vacances, notamment s'ils sont en contact de personnes vulnérables, de personnes âgées. On a beaucoup fait pour élargir les capacités de test, pour arriver à ce fameux 900 000 et bientôt ce million. On a renforcé les personnels qui peuvent intervenir dans les laboratoires en ouvrant à de nouvelles professions, à des étudiants en santé. On a priorisé aussi les tests. Il faut que des personnes qui ont des symptômes ou des personnes qui sont contacts de personnes dont on sait qu'elles ont été contaminées se fassent tester en priorité. Il y a des plateformes numériques qui ont été mises en place qui permettent de prendre rendez-vous aussi.
Gabriel,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à développer les capacités de tests sans prescription, sans ordonnance, dans l'espace public. Un exemple, à Paris, à partir de demain, on va avoir des barnums de tests sur des mairies d'arrondissement, devant des mairies d'arrondissement, qui vont permettre aux Parisiens qui le souhaitent d'aller se faire tester sans prescription, sans ordonnance. Je crois que demain, ça démarre devant l'hôtel de ville, les mairies du 15e et du 19e arrondissement. Puis ça va tourner devant des arrondissements. Toutes les informations sont sur le site de l'agence régionale de santé.
Ce sont des structures provisoires, les barnums. Hein, c'est bien ça. Donc des structures provisoires, peut-être sous tente, c'est ce que vous nous dites.
Absolument.
Que l'État, que l'agence régionale de santé va
avec l'assurance maladie,
demain, devant les mairies d'arrondissement.
Et uniquement à Paris. C'est-à-dire que vous ne le faites pas dans d'autres villes
si, où c'est aussi. C'est quelque chose qui se systématise dans des grandes villes. J'étais en déplacement à Lyon il y a quelques jours et c'est quelque chose qui est lancé aussi à Lyon, à Lille où j'étais avec le Premier ministre au milieu de l'été, c'est aussi mis en place devant des stations de métro. Donc on augmente les capacités de tests semaine après semaine.
Il y a une question sur ces tests, Philippe Juvin qui est le chef des urgences de Pompidou, de l'hôpital Pompidou, le réclame, c'est les tests salivaires. Alors pourquoi on n'arrive pas à en faire plus? Pourquoi on n'a pas cette homologation qui est plus rapide?
C'est un enjeu de recherche qui est très fort parce qu'il faut s'assurer que les tests salivaires, ils sont fiables. Et qu'on n'a pas des faux positifs, des faux négatifs. Il y a visiblement, là, c'est les scientifiques qui le disent, des tests salivaires qui ont été testés, qui ont été lancés dans certains pays et qui se sont révélés donnant des faux cas positifs ou des faux cas négatifs. Donc, un, oui, on veut aller vers les tests salivaires parce que c'est plus simple, parce que c'est moins invasif, comme on dit, mais il faut être sûr que c'est fiable et que ça ne nous donne pas des faux diagnostics. Et donc, le président de la République, dans le dernier Conseil de défense, a demandé qu'on aille beaucoup plus vite et qu'on intensifie la recherche sur ces sujets-là, comme les autres pays européens autour de nous qui travaillent aussi sur ces questions-là. Il n'y a pas spécialement de gros retard par rapport à la moyenne de la France.
Gabriel,
et on va avancer.
On voit l'Espagne qui fait appel à l'armée parce qu'ils veulent en effet que les tests soient plus fréquents et plus faciles d'accès. On voit toutes ces files d'attente dans les grandes villes. Pourquoi ne pas faire appel à l'armée en France pour mettre en effet des structures provisoires dans toutes les grandes villes pour éviter ces files interminables?
D'abord, on a beaucoup fait appel à l'armée dans cette crise.
Pourquoi ne pas le faire à nouveau?
De l'hôpital de campagne qui a été mis en place à Mulhouse. Les hôpitaux militaires, je crois qu'il y en a 8 en France, continuent à accueillir
des
patients.
Est-ce que vous excluez ce recours ou est-ce que c'est possible?
Moi, encore une fois, j'exclus rien dans cette épidémie. Mm-hmm. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, en permettant à de nouveaux professionnels de venir renforcer les capacités de test, je pense aux sapeurs-pompiers, je pense aux étudiants en santé, je pense à d'autres professions, on a réussi à élargir considérablement et on approche du million de tests réalisés par semaine, qu'on va systématiser aussi les opérations où, en pleine rue, on peut venir se faire tester gratuitement et sans prescription. Et ça va nous permettre de continuer à augmenter dans les semaines.
Vous dites, Adrien, Gabriel Attal, il y a plus de tests, mais il y a aussi plus de cas positifs et plus de malades. Vous rappeliez les chiffres en comparaison avec le mois de juillet. À partir de combien de cas vous nous annoncerez qu'il y a des reconfinements localisés? Est-ce qu'il y a un seuil qui le déclenchera automatiquement? Parce qu'on a bien compris qu'on voulait l'éviter, mais on n'a pas compris à quelles conditions on y arriverait.
Il y a des seuils qui ont été fixés et qui permettent de classer des départements en rouge, comme on dit, en circulation active. Aujourd'hui, il y en a 21 qui sont en circulation active. Et quand vous passez ce seuil, vous avez les préfets, en lien avec les mairies, en lien avec les élus locaux, qui peuvent prendre un certain nombre de mesures.
Il n'y a pas de reconfinement dans ces 21 départements ou vous nous dites qu'il va y avoir un reconfinement local dans les 21 départements?
Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'en fonction de la situation locale, il peut y avoir des décisions plus ou moins fortes qui sont prises. On l'a vu. Il y a eu des décisions qui ont été prises à Marseille, par exemple. Il y a des décisions qui ont été prises et annoncées à Paris. On s'adapte à la situation. Mais je vais vous dire, moi, je comprends que ça pose des questions et que finalement, des gens se disent, mais c'est quoi la lisibilité avec telle mesure à tel endroit, telle mesure à d'autres? Mais on a pris une décision qu'on ne regrette pas et qu'il fallait prendre en mars dernier de confiner tout le pays parce qu'on découvrait cette épidémie, parce qu'on ne savait pas identifier les personnes malades toutes et tracer les cas à contact. Et on a pris cette décision nationale. Et je crois que beaucoup se sont accordés au moment du déconfinement pour dire que plus on arriverait à prendre des mesures territoriales, à s'adapter à ce qu'est la circulation du virus, mieux ce serait. Je vous donne un exemple. Évidemment que ça n'a pas grand sens de rendre le masque obligatoire dans toutes les rues d'une petite ville de la Lozère où il n'y a pas de circulation ou peu de circulation du virus par rapport à une ville comme Paris ou comme Marseille où ça circule beaucoup.
Mais est-ce que vous êtes sûr de cela, Gabriel? Il y a un problème de lisibilité, vous l'avez dit. Pourquoi ne pas rendre le masque obligatoire partout en France puisque vous estimez aujourd'hui que c'est une protection indispensable? Au moins, ce serait clair.
Si on veut que les mesures soient comprises, et si on veut que les mesures soient jugées comme légitimes par les Français, il faut qu'elles correspondent à la réalité d'un risque à un moment donné et à une anticipation sur des risques qui peuvent arriver. Voilà, c'est ça la décision.
Alors, par exemple, à Marseille, il y a une logique à ce que les bars et restaurants ferment à 23h, mais qu'à Paris, ils soient ouverts. Quelle est la cohérence là?
La logique, c'est de regarder s'agissant de nos préfets, de nos agences régionales de santé avec les élus, où se font les contaminations. J'y suis allé à Marseille cet été, avant que la fermeture des bars le soir soit annoncée. De quoi on se rendait compte ? Qu'il y avait des bars, notamment des très grands bars en rooftop, qui pouvaient accueillir plusieurs milliers de jeunes, où il y avait des contaminations. Et donc c'est cette décision qui a été prise. C'est peut-être pas la même situation qu'on voit aujourd'hui à Paris.
Mais vous n'êtes pas en train de dire que la situation est positive à Paris. À Paris, il y a aussi des contaminations importantes, il y a aussi des rooftops, comme vous dites.
Ce que je vous dis, c'est qu'on regarde, d'abord la circulation du virus dans chacune des villes, dans chacun des territoires, et on identifie les lieux où le virus se transmet le plus, et on prend des mesures adaptées.
Vous prenez aussi en compte les impératifs économiques. On a l'impression que le virus circule-t-il plus après 23h qu'avant 23h ?
Non, c'est pas ce que je vous dis.
C'est aussi la question qu'on se pose quand on voit cette interdiction.
On a vu des situations à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône cet été, où il y avait des grandes fêtes, des grands raouts qui étaient organisés dans des bars, qui n'étaient pas déclarés comme des boîtes de nuit, mais où dans les faits, on avait des jeunes qui circulaient, il y avait peu de gestes barrières, et il y avait des contaminations. Des contaminations qui avaient aussi été identifiées parmi les personnels de certains bars.
Mais alors pourquoi ne pas le faire à Paris ? Je reviens à la question d'Adrien Lande. Pourquoi le faire à Marseille et pas à Paris ?
Parce que à ce stade et aujourd'hui, les préfets en Île-de-France, les élus locaux ne constatent pas ce type de situation qu'on a constaté cet été à Marseille, à Paris.
Ces élus locaux critiquent cette décision qui viendrait de Paris et disent qu'ils n'ont pas été associés. Donc vous parlez d'adaptation locale.
Les élus locaux parisiens ?
Non, les élus de Marseille.
La décision, elle a été prise par les autorités de l'État, oui, à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, dans la région concernée, en lien avec les élus. Il y a une discussion. Après, ils peuvent considérer que telle mesure n'est pas adaptée ou autre. Moi, quand je me suis déplacé à Marseille, ce n'est pas le discours que j'ai entendu. Ce qu'ils m'ont dit, par contre, les élus à Marseille, que ce soit la maire, la présidente de la métropole ou les différents élus, c'est qu'on veut des moyens de l'État pour nous aider à atteindre ces objectifs.
C'est pas rien.
On a annoncé à certains noms.
La maire de Marseille et son opposante habituelle, Martine Vassal, se sont retrouvés côte à côte pour dénoncer cette mesure de l'État, le président de la République qui a vu une attitude électoraliste. Vous aussi ?
Il y a des propos de tribune qui peuvent exister. Voilà, je pense qu'on peut difficilement affirmer, même si certains le font, qu'on prend des mesures dont on considérerait qu'elles ne sont pas utiles.
Oui, enfin, vous dites que les maires doivent être en première ligne, et en même temps, vous ne les écoutez pas quand ils
parlent. Si, on les écoute, on discute beaucoup avec eux, on échange beaucoup avec eux.
La preuve à Marseille, ils ne l'entendent pas de cette oreille.
Une question sur la logique, Gabriel Attal. On va y revenir dans un instant en détail. On a vu qu'il y avait une extension du port du masque à l'école, en entreprise. On vient parler des bars, des restaurants, de la voie publique. On entend aussi les scientifiques nous dire qu'une grande partie des contaminations se fait dans la sphère privée, à la maison. Est-ce que vous demandez aux Français, sur la base du volontariat, bien sûr, mais est-ce que vous leur demandez de porter le masque lorsqu'ils sont chez eux ?
Je vais vous dire, on recommande, notamment quand on est en lien avec des personnes vulnérables, des personnes âgées, de faire extrêmement attention. Et ça, ce n'est pas un message qui est nouveau. On le dit depuis le début. Je vous donne un exemple. Un jeune qui revient de vacances, qui a peut-être un peu fait la fête cet été. Évidemment qu'on ne l'invite pas à aller voir sa grand-mère et à lui faire un bisou. Voilà. C'est presque du bon sens. On a un message très fort depuis le début de cette crise qui est de dire qu'il faut protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et donc ça fait partie des recommandations qu'on fait, évidemment.
Et en même temps, le Premier ministre incite les Français à aller dans les salles de spectacle et dit dans le même temps aux papis et aux mamies de ne pas aller chercher leurs enfants à l'école. Là, il y a aussi une incompréhension de nos concitoyens.
C'est pour ça que je suis là, pour essayer d'expliquer.
Expliquez-nous en quoi cela est cohérent.
Vous prenez des sujets qui sont différents. Sur les salles de spectacle, on a rendu le port du masque systématique obligatoire. Ce n'était pas le cas avant si la distance était possible dans toutes les salles de spectacle. La cohérence et le message, c'est d'abord respecter les gestes barrières le plus largement possible. Le masque, la distanciation, tous les gestes, maintenant, à mon sens, que les Français ont bien perçus et ont bien intégrés.
Pendant des mois, le gouvernement a dit, ce qui compte, c'est la distance, le masque n'est pas nécessaire. Est-ce que vous regrettez qu'il y ait eu cette communication ?
Mais je vais vous dire, moi, c'est pour ça que j'essaye de m'exprimer sans donner le sentiment de donner des leçons de morale aux gens, de leur dire, vous ne faites pas les choses bien, etc. Je suis lucide, les gens me l'ont dit d'ailleurs dans mes déplacements cet été, qu'au début de cette crise, ils ont entendu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois des scientifiques ou des membres du gouvernement leur expliquer que le masque n'était pas utile pour le grand public. Et qu'aujourd'hui, il devient obligatoire partout. Mais ce que je leur dis, c'est que l'état des connaissances sur le virus ont évolué. Et évidemment que je le regrette que dès le début, on n'ait pas pu identifier ça. C'est une évidence.
Mais Gabriel Attal, les Français qui nous écoutent aujourd'hui savent aussi que vous aviez à gérer une pénurie de masques. Aujourd'hui, il y a des masques, donc tout le monde peut en porter. C'est ça la réalité, Gabriel Attal, franchement. Est-ce que vous pouvez être honnête sur cette question-là ? Il n'y avait pas de masques, donc vous disiez aux Français que ce n'était pas nécessaire d'en porter.
Et donc, c'était quoi la logique de l'OMS à ce moment-là, à l'époque, à dire exactement la même chose que ce qu'on disait nous ? Et c'était quoi la logique pour les scientifiques qui étaient sur vos plateaux télé, que vous invitiez, vous, à dire la même chose que ce qu'on disait ?
Gabriel Attal, rien ne vous empêchait de vous démarquer de l'OMS, comme d'autres pays l'ont fait, et d'imposer le masque, même si l'OMS ne le souhaitait pas. Mais vous deviez gérer une pénurie. Est-ce bien la réalité que vous reconnaissez aujourd'hui ?
Il y a eu une tension très forte sur les masques, évidemment. Et on l'a dit à un moment, d'ailleurs. Il y a des messages très forts qui ont été passés en disant si vous avez des masques, il vaut mieux les diriger vers les professionnels de santé. On se souvient tous de ce qui s'est passé et de ce qu'on a vécu. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'entends qu'il puisse y avoir, une difficulté à comprendre ces évolutions. Et finalement, ce qui s'est passé et ce qu'a vécu le grand public, et je nous mets dedans aussi, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, c'est qu'on a aussi découvert dans le grand public ce qu'est la controverse scientifique. Et ce que sont les débats entre scientifiques qui parfois peuvent donner des messages différents.
Mais ce que vous nous dites en creux, c'est qu'on peut avoir dans 3 mois une nouvelle doctrine parce qu'on aura une nouvelle connaissance scientifique. Alors.
Ce que je vous dis, c'est que comme tous les pays dans le monde, et comme les autorités de santé mondiales, comme l'OMS, on découvre des choses progressivement sur ce virus et on adapte les mesures qu'on recommande. Et ça, c'est le cas depuis le début de l'épidémie.
Si dans 3 mois, les scientifiques nous disent « le masque, ça ne sert à rien », vous direz aux Français « enlevez-le ».
Benjamin Sortouche, je ne sais pas ce qui se passera.
Non, mais c'est là où on a l'impression que le politique prend pas sa responsabilité et se cache derrière le scientifique.
Non, je suis pas d'accord.
Très concrètement, dans 3 mois,
je suis pas d'accord. Dans un certain nombre de situations, d'ailleurs, on a pris nos responsabilités, on le regrette pas, notamment par exemple sur la réouverture des écoles. Vous vous souvenez qu'à l'époque, tout le monde ne recommandait pas de rouvrir les écoles, qu'on l'a fait, qu'on le regrette pas, que les pays qui ne l'ont pas fait l'ont regretté par la suite et qu'on a assumé nos responsabilités.
Alors justement, vous parlez d'école, c'est la rentrée scolaire.
Le président de la République a été beaucoup critiqué à l'époque quand cette décision a été prise. Et derrière, on a moins entendu ceux qui avaient critiqué à l'époque.
Alors, on en vient à cette rentrée scolaire, Marion Mourgue.
Qui commence mardi pour les enfants. Est-ce que vous dites aux parents, voilà, il n'y a aucune crainte, vous pouvez envoyer en toute sécurité vos enfants à l'école mardi, qu'ils aient ou pas le masque en fonction de l'âge?
Ce que je dis, c'est que tout a été mis en place pour protéger les enfants, pour protéger les personnels de l'éducation nationale, qu'on a un protocole sanitaire qui est extrêmement clair, qui permet de s'adapter en fonction des données dont on dispose sur la circulation du virus dans les différents territoires. Donc c'est ce message de confiance que je veux adresser. Et qu'au-delà de la question sanitaire, c'est évidemment, et tous les parents le savent et l'ont vu, c'est bon pour les enfants de retourner à l'école, parce que c'est un lieu de socialisation, parce qu'on apprend des choses, parce que le confinement a été très difficile pour beaucoup d'enfants qui ont dû rester chez eux.
S'il y a des cas qui sont décelés, ça veut dire que vous fermerez des écoles et que vous prendrez ces décisions.
Mais
ça,
si un cas est détecté, c'est test immédiat pour tous les cas contacts, c'est ensuite décision prise en fonction de ce qu'on constate comme circulation du virus. Ça peut être la fermeture d'une classe, ça peut être la fermeture d'une école, évidemment. Évidemment que tout ça est prévu et le protocole sanitaire prévoit différents scénarios pour pouvoir s'adapter. Mais tout est fait pour réduire les risques avec le port du masque qui a été systématisé pour les plus de 11 ans.
On va y venir, mais juste une question. Est-ce que vous craignez beaucoup d'absentéisme à partir de mardi à l'école ou pas? Ou vous êtes plutôt confiant et vous voyez quoi, 90% des élèves ou présents ou 100%? Quel est votre pronostic pour mardi?
Je ne fais pas de pronostic chiffré, on n'est pas dans
ou
un
des
match
professeurs aussi,
de professeurs. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Il a dit qu'il avait le sentiment qu'il y avait une confiance, notamment chez les enseignants, dans ces mesures, qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place dans les établissements, sur l'aération, sur la ventilation, sur l'hygiène, sur le port du masque, qui font qu'on peut avoir confiance en allant à l'école aujourd'hui.
Donc vous espérez qu'il y en ait le plus possible. Adrien Gindre.
Sur le masque pour les enfants, vous rappeliez à l'instant que c'est obligatoire à partir de 11 ans. Nos voisins espagnols ont choisi 6 ans. Ce matin, il y a encore des médecins qui demandent au gouvernement français de le rendre obligatoire dès 6 ans. Est-ce que c'est totalement exclu ou est-ce que ça fait partie des sujets qui peuvent évoluer dans les jours à venir?
Moi, je vous redis, et je le ferai toujours, que je n'exclus rien par principe pour l'avenir et que cette épidémie nous a montré qu'on ne pouvait rien exclure par principe par l'avenir.
Oui, mais voilà. Vous n'excluez rien pour l'avenir, pourquoi ne pas le faire dès maintenant?
Je vais vous le dire, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a consulté la Société française de pédiatrie, c'est-à-dire les pédiatres, ceux qui soignent les enfants et qui sont quand même les mieux à même de savoir ce qui est bon pour eux ou pas. On a consulté les organisations internationales, l'OMS, et on a concerté nos voisins européens. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a effectivement 2 ou 3 pays, je crois, en Europe, Espagne, Italie et Grèce, il me semble, qui prévoient le port du masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans, que les autres pays européens et nos autres voisins ne le font pas parce que les médecins, les pédiatres, les organisations internationales considèrent que ce n'est pas nécessaire. Ce que je vous dis, c'est qu'on a donc choisi de le faire à partir du collège. Et encore une fois, notamment pour les classes de CM1, CM2, je ne suis pas devin. Il peut y avoir des évolutions si on constate qu'il y a des transmissions à cet âge-là et qu'il y a
Vous aviserez quand, Gabriel Attal, sur cette évolution possible? Est-ce que vous le verrez dans 2-3 semaines, vous ferez un bilan?
On regarde en permanence, jour après jour, on regarde quelle est la situation. tous les jours, vous avez un bilan des contaminations. Tous les jours, on regarde où sont les clusters. Mmh. Évidemment qu'en fonction de ce qu'on identifiera, on prendra des mesures.
Mais la question qu'on se pose, c'est que vous dites, voilà, vous êtes dans le principe de précaution aujourd'hui. Pourquoi ne pas l'appliquer dès maintenant à l'école primaire? C'est ce que certains instituteurs, professeurs d'école vous disent. Voilà, il y a un principe de précaution maintenant appliqué aujourd'hui que vous n'appliquiez pas il y a quelques semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi ne pas l'appliquer partout, tout de suite, à l'école primaire?
En l'occurrence, ce n'est pas des instituteurs que j'ai entendus dans cette tribune.
Certains
c'est
le demandent.
Des,
certains le demandent également.
Des médecins ouais, qui ne sont pas, je crois, des, la Société française de pédiatrie et les pédiatres. Voilà, on a pris cette décision et on l'assume. Et on adaptera en fonction. Et c'est une décision qui est très protectrice. Je veux dire, il y a encore quelques semaines, quelques mois, il n'était pas question de rendre le port du masque obligatoire pour tous les collégiens et les lycéens comme on le fait aujourd'hui.
C'est vrai,
on constate qu'il y a une évolution dans l'épidémie et donc on s'adapte.
Marion Bourgard.
Vous avez pris la décision de ne pas rendre le masque gratuit, que l'État ne fournisse pas un masque pour tout le monde, ce qui a été critiqué. Est-ce que finalement ça aurait coûté trop cher de le faire? On voit que les collectivités le font désormais.
Alors, on a pris la décision de rendre le masque gratuit pour un certain nombre de Français. Notamment ceux qui ne peuvent pas se payer un masque. Notre priorité, c'est que les Français puissent accéder à un masque. D'abord, au début, ça voulait dire qu'il faut qu'il y ait des masques disponibles. Vous l'avez rappelé, il y avait une situation, on ne disposait pas de masques.
Attention.
Et donc, on a relancé la production, on a relancé les importations. Aujourd'hui, ce sujet est derrière nous. Je crois qu'à la fin du mois d'octobre, on aura reconstitué ce qu'on appelle le fameux stock stratégique d'un milliard de masques. Ensuite, il y a la question financière. Il y a des Français, des familles, qui ne peuvent pas se payer un masque, qui sont dans la grande précarité. Et pour ça, on n'a pas attendu non plus pour agir. Il y a 50 millions de masques qui ont été envoyés par la poste à des familles modestes, parents et enfants, avec un stock qui leur permet de tenir pendant 3 mois. Ça a été envoyé cet été. Il y a ensuite 50 millions de masques qui sont distribués physiquement via des associations et des collectivités locales au public précaire. J'étais à Strasbourg il y a quelques jours, justement, et j'ai vu une distribution qui était faite dans un foyer d'hébergement. Donc, au total, c'est 100 millions de masques gratuitement qui sont distribués aux familles modestes dans notre pays. Et puis, on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros pour des ménages modestes, parce que c'est un coût supplémentaire. Donc, ces mesures, elles sont là. On n'a effectivement pas fait le choix d'avoir, entre guillemets, une distribution gratuite continue de masques pour toute la population. Je pense qu'il y a que peu de pays, voire pas de pays, qui ont fait ce choix-là au niveau mondial. Mais notre priorité, c'est de garantir qu'il n'y ait pas de Français qui renoncent à se protéger,
Gabriel,
faute de moyens pour se protéger.
Et l'Italie ont choisi cette option de distribuer des masques. Donc, il y a des pays européens qui le font. Vous, l'ancien homme de gauche, en tout cas, pardon, ancien membre du Parti Socialiste, peut-être êtes-vous encore un homme de gauche, vous qualifiez-vous comme ça. Pourquoi ne pensez-vous plus aujourd'hui que c'est une mesure d'équité, d'égalité?
Je veux dire, moi, en tant qu'homme de gauche, comme vous l'avez dit, je considère que des personnes qui n'ont pas les moyens de qu'on ne peut pas avoir une situation où on devrait renoncer à se protéger pour des raisons financières. Et c'est pour ça qu'on pense à mesure.
Pourquoi le quoi qu'il en coûte ne s'applique pas? Pourquoi le quoi qu'il en coûte ne s'applique pas là-dessus?
La personne de gauche que vous évoquez à l'instant, je considère qu'il n'y a pas forcément de raison qu'on distribue des masques à des personnes qui ont tout à fait, voire largement, les moyens de se payer un masque. Il faut cibler les publics qu'on accompagne, et en l'occurrence, c'est les foyers modestes dans notre pays.
Nous avons parlé école, il faut parler entreprise, puisque beaucoup de Français retournent dans leur société dès demain. Adrien Gindre.
Oui, parce qu'effectivement, mardi rentre, comme à l'école, en vigueur une nouvelle règle, celle du port du masque obligatoire partout dans l'entreprise. Ça crée beaucoup d'inquiétudes chez les salariés, beaucoup d'incompréhension. C'est le cas, par exemple, dans les bureaux partagés, où parfois il est possible de respecter la distance avec de nombreux mètres entre plusieurs collaborateurs. C'est le cas de ceux qui ont des conditions de travail déjà difficiles et des métiers éprouvants. C'est donc dans moins de 2 jours maintenant, on ne sait toujours pas où ce port du masque va s'appliquer. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous éclairer et répondre aux gens qui s'interrogent?
D'abord, ça rentre en vigueur effectivement dans 2 jours. On sait maintenant depuis, je crois, plus de 2 semaines que le masque est obligatoire en entreprise. Ça a été annoncé au cœur de l'été par la ministre du Travail. Donc, je veux dire, le principe est connu depuis maintenant plus de 2 semaines.
Et d'ailleurs, beaucoup moins.
Sur le terrain, je peux vous dire que j'étais dans plusieurs départements. À chaque fois, j'ai voulu aller visiter une entreprise et j'ai vu à chaque fois des entreprises qui ont même anticipé la règle et qui ont déjà recours au port du masque. C'était le cas chez Rexia près de Lyon, c'était le cas chez Clemcy à Mulhouse.
Non, mais Gabriel, vous avez des semaines pour vous préparer. C'est vrai qu'on peut s'interroger. On se dit qu'on connaîtra ce protocole demain soir pour une application mardi.
Ce que je vous dis, c'est que ce principe de port du masque obligatoire, ça fait maintenant 2 semaines qu'il a été annoncé. Les entreprises l'ont bien perçu et les salariés aussi. Maintenant, il y a des questions qui se posent sur des adaptations. Parce qu'il y a peut-être des situations où la pénibilité, le caractère physique de certaines fonctions peut rendre difficile le port du masque. Des situations où on peut avoir peut-être des garanties sur le fait que le risque est quasi nul de transmission du virus parce qu'on a un certain nombre de critères sur la ventilation, sur le faible nombre de personnes dans une pièce qui peuvent jouer. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a saisi le Haut Conseil à la Santé publique, qui nous a remis ce week-end un avis, est en train d'être regardée. Et que demain, avec les partenaires sociaux, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, va arrêter le protocole sanitaire qui intégrera ces adaptations et qui sera publié demain. J'entends parfaitement ce que vous dites sur c'est publié demain et l'obligation, elle rentre en vigueur mardi.
Mardi.
On s'adapte, mais je veux dire, le principe de l'obligation et du port du masque systématisé dans l'entreprise, il est maintenant bien connu depuis deux semaines.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanctions les premiers jours, il y aura une mise en route. Combien de temps vous allez laisser aux entreprises pour qu'elles appliquent ces nouvelles mesures sans risquer eh bien, l'inspection du travail?
Évidemment, Benjamin Sportouche.
Mais évidemment, c'est peut-être
Mais oui, c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde. Alors je vous dis, si vous voulez que je vous le dise de manière plus claire, évidemment, on fait confiance aux entreprises, comme on fait confiance par principe aux Français pour qu'ils portent le masque. Et les entreprises, ce n'est pas dans leur intérêt à mettre en danger la sécurité, la santé de leurs salariés.
À partir de quand y aura-t-il des sanctions?
Il y a des contrôles qui interviendront, je pense, dans les jours qui suivent l'entrée en vigueur.
Et question vous concernant, à partir de mardi, puisque les entreprises de télé, de radio sont concernées par ce protocole, est-ce que vous irez pour vos interviews télé et radio masquées à partir de mardi?
Moi, je respecterai le protocole qui aura été publié.
Entreprise par entreprise.
Je ne sais pas ce qu'on fera pour ces entreprises-là, mais moi, je me fie aux règles, évidemment.
Il y a une question que beaucoup de salariés se posent, c'est le télétravail. Est-ce que pour vous, aller travailler masqué, ça suffit? Ou est-ce que vous encouragez le télétravail, comme ça a été encouragé avant l'été, pour qu'il y ait justement moins de personnes qui se croisent?
On continue à encourager et à recommander le télétravail, notamment dans les départements rouges, où il y a une circulation active du virus. Il y a par ailleurs un travail qui est en cours avec les partenaires sociaux sur qu'est-ce qu'on a appris de cette crise et quelles sont les décisions qu'on prend à plus long terme sur le télétravail comme organisation du travail dans l'entreprise. C'est un travail que mène Elisabeth Borne, qui doit aboutir, je crois, à la fin du mois d'octobre. Ça, c'est plus pour le long terme. Mais aujourd'hui, face à la situation épidémique qu'on connaît, dans les départements de circulation active du virus, on continue à encourager le télétravail.
Est-ce que vous pouvez être plus clair, Gabriel Attal? Est-ce que la règle, c'est la présence et le télétravail, l'exception?
La règle, c'est qu'il y a un retour au travail et ensuite que le télétravail, les entreprises continuent à y avoir recours d'autant qu'elles le peuvent dans les départements les plus concernés par le virus.
On va essayer de reposer encore la question pour bien comprendre. Est-ce que vous nous dites, il vaut mieux aller travailler masqué ou est-ce qu'il vaut mieux télétravailler? Si on doit faire un choix, quelle est l'option préférable et l'option recommandée par le gouvernement?
Je vais vous dire, ça c'est des décisions qui se prennent, heureusement, entreprise par entreprise et branche par branche. L'État, il n'est pas là à dire, dans les studios d'RTL ou dans la rédaction d'RTL, voilà comment il faut faire. On donne des recommandations au niveau national pour réduire les risques, pour garantir qu'il n'y ait pas de cluster professionnel dans des entreprises. Et donc, c'est le port du masque, et donc c'est l'aération, et donc c'est la ventilation.
Vous semblez
des outils et on dit que le télétravail est un outil.
C'est aussi une manière de se défausser sur l'entreprise qui attend des règles et des consignes plus strictes.
On donne à l'entreprise.
Mais d'un point de vue sanitaire, ça ne fait pas de différence à votre point de vue.
Moi, je ne suis pas médecin. Ce que je dis, c'est que, et ce que disent les scientifiques, parce qu'on a consulté évidemment le Haut Conseil, qu'on a consulté les autorités scientifiques avant de prendre nos décisions, c'est que les mesures qu'on a mises en place dans l'entreprise, et notamment le port du masque, la distanciation, la ventilation et toutes les recommandations qui ont été faites, permettent de limiter le niveau de risque dans l'entreprise et donc on peut retourner travailler.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Jean-Luc Romero-Michel, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, Alain Coq, qui a des souffrances qu'on ne peut absolument pas soulager, demande le droit de partir. Pourtant, vous savez, la loi ne le permet pas actuellement. On a l'impression que la fin de vie n'intéresse pas, parce que vous savez qu'il n'y a même plus de plan de développement de soins palliatifs depuis presque deux ans. Alors, est-ce que vraiment, vous allez enfin voter une loi qui permette à chacune et chacun d'entre nous d'accéder aux soins palliatifs si on en a besoin, et puis d'obtenir et l'euthanasie et le suicide assisté?
Gabriel Attal, est-ce que vous êtes, vous, personnellement, pour le suicide assisté, l'euthanasie?
C'est un sujet qui est évidemment très difficile, qui renvoie par ailleurs à des situations personnelles qu'on peut tous avoir vécues, que tous les Français ont vécues et vivent, et qui revient régulièrement au devant de l'actualité à l'occasion de cas dramatiques comme celui de ce monsieur que j'ai écouté sur votre antenne, qui a décidé d'en faire un combat pour remettre ce sujet dans l'actualité. Moi, je ne me prétends pas tout connaître sur ce sujet-là et avoir un avis clair et tranché sur cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a une loi qui a été votée, je crois, en 2016, qui a franchi une étape supplémentaire, qui permet ce qu'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui a permis aussi un développement des soins palliatifs, et on continue à développer les soins palliatifs en France. Je ne dis pas que ça règle toutes les situations, loin de là. Je sais qu'il y a des débats politiques pour aller vers une solution à l'euthanasie, au suicide assisté. Je pense que c'est des débats, quand on se lance dans ces questions-là, on voit bien que ça devient extrêmement difficile et qu'il y a des situations personnelles qui sont très difficiles à trancher. Je pense que c'est un débat, pour vous répondre, qui peut se trancher dans le cadre d'une élection présidentielle. Et je pense que c'est un débat
avec Emmanuel Macron candidat en 2022.
C'est un débat de société qui peut se poser dans le cadre de cette élection parce que c'est un choix de société.
C'est ce que vous souhaitez pour 2022. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. On parlera notamment insécurité.
RTL. Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
J'ai hâte de vous retrouver dès demain, 22h, pour une nouvelle saison de l'écoute, des échanges, du partage, des confidences, de l'émotion, des sourires. Plus que jamais, vous êtes au cœur de notre rendez-vous quotidien.
Parlons-nous, présenté par Caroline Dublanche, revient demain à 22h sur RTL.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'information avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Pour tenter de freiner la circulation du virus, le gouvernement veut mettre les bouchées doubles sur les tests. Record historique, 900 000 ont été réalisés cette semaine selon Gabriel Attal qui annonce la création de centres provisoires de tests à Paris à partir de demain et devant les mairies d'arrondissement. Le porte-parole du gouvernement est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. La rentrée scolaire J-2, quelques écoles et quelques classes seront fermées. Mardi, le ministre de l'Éducation nationale promet une année aussi normale que possible. Et en ce dimanche midi, les derniers retours de vacances, il y a du monde sur l'autoroute A7, Sarah Loubacouche.
Oui, et ce dès la sortie d'Aix, hein, quand vous êtes encore sur la 8, vous avez du mal à vous insérer sur la 7. La bretelle de sortie est bien bouchée au niveau de Lafare-les-Oliviers. Une fois engagé sur la 7, vous devrez être patient pour rejoindre Lançon-Provence. Un accident au kilomètre 242 vous fait freiner sur 4 km. En tout, vous mettrez une heure de plus qu'en temps normal à rallier Orange au sud de la métropole lyonnaise.
Sarah Loubacouche pour RTL. Il est accusé d'avoir fourni des documents ultra sensibles au service secret russe. Le ministère des Armées annonce avoir saisi la justice contre un officier français pour atteinte à la sécurité. Il s'agirait d'un lieutenant-colonel en poste sur une base de l'OTAN en Italie. Il a été arrêté par la DGSI. Le président allemand condamne une attaque contre le cœur de la démocratie suite à la tentative d'intrusion hier dans le bâtiment du Reichstag. Des militants anti-masques ont essayé de pénétrer de force dans le Parlement allemand. Nous n'accepterons jamais cela, a ajouté le chef de l'État. Le cyclisme, deuxième étape du Tour de France, est déjà la montagne. Cet après-midi, c'est le coureur norvégien Alexander Kristoff qui partira en jaune. On surveillera de près tout à l'heure le français Julian Alaphilippe. En football, cet après-midi, la suite de la deuxième journée de Ligue 1 avec Reims qui reçoit Lille dans une demi-heure. Quatre matchs sont prévus en simultané à 15h. Angers-Bordeaux, Metz-Monaco, Nantes-Nîmes et Saint-Étienne-Lorient. Ce soir, Brest reçoit Marseille. Rencontre à vivre dans RTL Foot à partir de 20h. Le bras de fer continue entre Lionel Messi et le Barça. L'attaquant argentin ne s'est pas présenté tout à l'heure à la séance de dépistage Covid. Après une saison cauchemardesque, il a décidé de mettre sa sanction à exécution mardi dernier en annonçant qu'il souhaitait rompre son contrat. Et puis aux 24 heures moto, victoire facile de la Honda numéro 5 en tête pendant quasiment toute la course sur le circuit du Mans à huis clos en raison de la course sanitaire. Dans un instant, la suite du grand jury.
Non, mais excusez-moi, je voulais juste revenir
Léa,
sur...
Léa, qu'est-ce que tu fais ?
Non, chérie, c'est important. Quand vous dites pour le pire, c'est vraiment... Je veux dire non négociable, parce que c'est très engageant quand même.
Oh, si tout pouvait être aussi facile qu'avec O2. O2 invente le service à domicile sans engagement. Un an, un mois, une semaine, un week-end ou même une journée, avec O2, c'est sans engagement. Garde d'enfants, ménage, repassage, soutien scolaire, aide aux personnes âgées, jardinage, bricolage. O2 s'occupe de tout.
Inspirez, respirez. O2.
Pascal Praud sur RTL, les auditeurs ont la parole.
13h, 14h30, les auditeurs ont la parole. Nouveauté, 14h, le duel. Tous les jours, une question essentielle, polémique, provocante. Deux personnalités, le duel arbitré, commenté et noté par les auditeurs. 13h, 14h30, les auditeurs ont toujours la parole.
Les auditeurs ont la parole, c'est à partir de 13h et désormais jusqu'à 14h30 sur RTL. Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI qui vous pose, Gabriel Attal, la première question de cette seconde partie.
À propos d'abord de cette publication de Valeurs Actuelles qui a beaucoup fait réagir dans l'hebdomadaire, la députée France Insoumise Danielle Obono est représentée en esclave. Elle s'en est émue, le président de la République s'en est ému, il l'a contactée personnellement pour l'assurer de son soutien. Est-ce que vous considérez que ce fait mérite des poursuites sur le plan judiciaire, que à la place de Danielle Obono, vous-même, vous porteriez plainte, ou au contraire qu'on est là dans le registre de la liberté d'expression, maladroitement utilisée peut-être, mais de la liberté d'expression?
C'est à elle de dire si elle souhaite porter plainte, et moi, je n'ai pas d'injonction à lui donner. C'est très choquant, cette image, de voir, de manière générale, quelqu'un dépeint dans ces circonstances, et un élu de la République en particulier, c'est extrêmement choquant. Et moi, en tout cas, je vais vous dire, je me réjouis qu'il y ait une indignation collective de la classe politique. J'ai entendu toute la classe politique s'en indigner. C'est très choquant. Et par-delà les clivages, il y a, je pense, peu de députés à l'Assemblée nationale dont je me sens aussi éloigné sur le fond des idées que Danielle Obono. Et pour autant, je suis indigné par cette image, comme je le serais pour n'importe qui d'autre.
Mais on n'est pas là ici pour prendre parti, bien évidemment, pour Valeurs Actuelles, ni pour ni contre. Mais la question de la liberté d'expression, est-ce qu'elle vous interroge dans ce cas précis?
À quelques jours, je le signale, de l'ouverture du procès d'attentat contre Charlie Hebdo.
C'est une question et une tension qui anime en permanence le débat politique, le débat juridique, même le débat philosophique en France et dans toutes les sociétés modernes. Il ne se tranche évidemment pas sur un plateau de télévision entre nous, mais c'est toujours un débat, par principe. D'ailleurs, c'est heureux.
Alors, passons à un autre sujet. Marion Mourgue, nous parlons donc maintenant du plan de relance de l'économie.
Ce plan doit être annoncé cette semaine. Concrètement, à quoi on peut s'attendre, notamment dans les prochains jours?
D'abord, ce que je veux dire, c'est que la relance, elle a commencé dès qu'on a engagé le déconfinement. On a mis en place des mesures qui ont permis d'injecter 460 milliards d'euros dans l'économie, en faisant le chômage partiel, en faisant le prêt garanti par l'État pour des millions d'entreprises, en faisant le fonds de solidarité pour des millions d'entreprises et d'entrepreneurs et d'indépendants, en prenant un certain nombre de mesures de pouvoir d'achat aussi, j'en parlais il y a un instant. Et que maintenant, on franchit une nouvelle étape avec ce plan de relance qui vise à poursuivre notre investissement pour protéger nos emplois et nos entreprises, avec une grande priorité qui me semble extrêmement importante, évidemment à titre personnel et politique, qui est la jeunesse. Garantir que les jeunes ne seront pas la génération sacrifiée du fait de la crise économique liée au Covid, et puis de développer en France de nouveaux marchés. Au fond, la philosophie de ce qui va être présenté ce jeudi, c'est de dire qu'on peut se saisir de cette crise comme d'une opportunité pour accélérer un certain nombre de transformations dont on sait que le pays a besoin.
Et pour faire parfois le contraire de ce que vous avez fait depuis le début du quinquennat, par exemple sur les transports, le fret, les trains de nuit, on a compris que c'était un axe très fort. Pourtant, c'est plutôt un axe qui a été délaissé depuis 2017.
On a eu un investissement sur le fret, notamment sur les petites lignes. On a réformé la SNCF pour que ce soit plus efficace. Mais c'est sûr qu'on va franchir une étape extrêmement importante avec ce plan sur ce sujet-là et sur le sujet environnemental d'une manière générale. Il y a un tiers du plan qui va être consacré à la question de l'environnement. La relance, elle va être verte. Elle va être verte parce qu'on va rénover massivement les bâtiments, les rénovations thermiques, notamment les bâtiments publics. Je crois que c'est 100 millions de mètres carrés en France de bâtiments publics. Et c'est très concret pour les Français. Ça veut dire que l'EHPAD où sont vos parents, que l'école où sont vos enfants, va être rénové parce qu'aujourd'hui, c'est une passoire énergétique. Et que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la qualité de vie dans ces lieux, et c'est bon pour l'emploi parce que, évidemment, c'est des PME, c'est des TPE qui vont être mobilisés pour accomplir ces travaux.
Vous parlez des EHPAD, des maisons de retraite. L'Association des directeurs d'établissements pour personnes âgées vous demande un renforcement rapide des effectifs dans les maisons de retraite parce que, je les cite, les personnels sont épuisés. Quelle réponse leur apportez-vous? Est-ce que vous allez leur donner satisfaction?
D'abord, oui, ils sont épuisés parce qu'ils ont été au front aussi pendant cette épidémie. Ils vont donner l'occasion de saluer cette mobilisation qui se poursuit encore aujourd'hui parce que quand on disait tout à l'heure que l'enjeu aujourd'hui, c'est à tout prix de continuer à protéger les plus vulnérables et notamment les personnes âgées, ça veut dire que dans les EHPAD aujourd'hui, les personnels, ils sont encore entre guillemets en mode Covid. Hein. Ils sont encore à protéger, à faire en sorte que toutes les mesures sont prises pour protéger les personnes âgées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on renforce l'attractivité de ces métiers avec des revalorisations salariales qui sont prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Je rappelle, quasiment 10 milliards d'euros qui ont été annoncés pour revaloriser les salaires des gens qui travaillent à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux, dont les EHPAD. Ensuite, on ouvre les perspectives de recrutement en augmentant le nombre de places de formation dans les instituts de formation pour ces métiers. Et puis, on va rénover aussi les EHPAD. Je crois que dans le plan de relance, c'est plus de 2 milliards d'euros qui vont être consacrés à la rénovation des établissements médico-sociaux, en priorité les EHPAD. En priorité pour les EHPAD. Ce qui va permettre de rénover très vite des dizaines de milliers de places en EHPAD. Donc c'est aussi un enjeu de qualité de vie au travail.
Mais sur les effectifs immédiats, est-ce que vous leur dites on va vous envoyer des gens spécialisés?
On a commencé à envoyer des gens dans le cadre de la crise. Ouais. Je rappelle qu'on a mobilisé le service sanitaire, qu'on a invité les médecins libéraux qui le pouvaient à aller renforcer les personnels.
Donc vous relancez cet appel?
Je ne relance pas un appel spécifique aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est qu'on a aujourd'hui des personnes extérieures aux EHPAD qui sont venues les renforcer, qu'on élargit les recrutements pour qu'il y ait davantage de professionnels qui s'engagent et qu'on revalorise le salaire pour rendre plus attractives ces professions.
Une question sur la consommation, Marion Mourgue.
Il y a une mesure que vous semblez exclure, c'est la baisse de la TVA. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser la TVA pour justement que les Français consomment davantage et que le plan de relance ne soit pas uniquement, ça donne l'impression, pour les entreprises, pour les aider aujourd'hui?
Le choix qui a été fait, effectivement, n'est pas celui-là. Parce qu'on a estimé que ça coûte énormément d'argent pour des effets qui ne sont absolument pas au rendez-vous, a priori. Je crois que si vous baissez d'un point la TVA, c'est plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros que ça coûte. Et à la fin, sur le porte-monnaie des Français, la baisse d'un point ou d'un demi-point de la TVA, elle n'a pas beaucoup d'impact.
Donc,
qu'est-ce qu'on a fait pour relancer la consommation? C'est important de le dire. On a ciblé un certain nombre de Français, notamment avec des aides financières qui ont été apportées pendant le confinement, qui ont été apportées à l'issue du confinement. Le Ségur de la santé, c'est aussi une revalorisation salariale, l'allocation de rentrée scolaire, par exemple. On a garanti le salaire des Français pendant le confinement pour éviter qu'il y ait des licenciements, parce que c'est sûr que si vous êtes licencié et que vous perdez votre emploi, vous avez plus de mal à consommer. Donc le chômage partiel, qui a coûté énormément aux finances publiques, ça visait aussi à ça. Et puis on a pris des mesures ciblées sur certains secteurs. Je vous donne un exemple. On a mis en place une prime massive pour la conversion des véhicules, pour aller vers des véhicules plus propres. Résultat, on a vendu plus de voitures en France en juin 2020 qu'en juin 2019, notamment grâce à cette prime. Donc c'est aussi cette action ciblée vers des objectifs, notamment écologiques, qui permet de relancer la consommation.
Adrien Gendre.
Il y a tout de même une grogne sociale qui se fait toujours sentir en cette rentrée. Il y a plusieurs journées d'action qui sont annoncées sous des formes diverses. Le samedi 12 septembre, c'est par exemple avec le soutien du gilet jaune Jérôme Rodriguez, de l'humoriste Jean-Marie Bigard. On a le mouvement du 17 septembre à l'appel de la CGT. Et dans le même temps, vendredi devant la presse présidentielle, le président de la République a rappelé son attachement à la réforme des retraites. On a du mal à comprendre le calendrier, la manière dont tout ça va s'agencer. Pour comprendre l'horizon et l'objectif, est-ce qu'avant 2022, le gouvernement aura pris par exemple une mesure d'âge sur la réforme des retraites? Est-ce qu'il y aura ce paramètre-là qui aura bougé?
Il me semble que le président, dans l'échange qu'il a eu avec vous et la presse présidentielle, n'a pas répondu à cette question. Je ne vais pas moi y répondre, mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'on laisse sa place au dialogue avec les partenaires sociaux. Ce qu'il a dit, et ce que je redis ici, c'est qu'on a une ambition qui est de transformer notre système de retraite pour qu'il soit plus juste. On parlait à l'instant du confinement et de ceux qui ont été en première ligne, en deuxième ligne, ces travailleurs précaires qui aujourd'hui sont les grands pénalisés de notre système de retraite actuel. Évidemment qu'on poursuit toujours l'objectif que ce soit plus juste pour eux et qu'il est même renforcé par la crise. Ensuite, il y a les questions paramétriques d'âge, de déficit, où là, on a demandé une nouvelle estimation au CORE, au Conseil d'orientation des retraites, pour éclairer nos décisions. Et on va le faire en lien avec les partenaires sociaux. On ne peut pas d'un côté dire ce qu'on fait maintenant depuis un certain temps, qu'on dialogue avec les partenaires sociaux, qu'on prend les décisions avec eux, et vous annoncer avant même que les discussions aient eu lieu.
Quand est-ce qu'on le saura? Parce que gagnons du temps, quand est-ce qu'on sera fixé?
Je crois que dans les prochains mois, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Prochaine semaine, prochain mois, dans l'année. Et les discussions aboutiront sur ce sujet-là.
Mais maintenant, pour revenir sur le sujet. Très honnêtement, la mesure d'âge, ça pourrait être pour un deuxième quinquennat, si on comprend bien.
Je n'ai pas fait de déclaration sur ce sujet-là.
Pose la question.
Je vous dis que ça dépendra des discussions qu'on aura avec les partenaires sociaux.
Si deuxième quinquennat, il y a, bien sûr, on peut
pas. Vous pouvez pas parfois nous dire, vous ne concertez pas assez, vous décidez tout seul. Et quand on concerte pour décider avec nos partenaires, nous dire vous devriez décider tout seul.
Gabriel Attal, le président de la République et le gouvernement en cœur régulièrement, dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il y aura cette semaine une augmentation du gaz de 0,6% des tarifs réglementés. Est-ce que vous ne pouviez pas, tout simplement, supprimer, bloquer cette hausse?
Alors d'abord, ce que je redis, et c'est important de le réaffirmer parce que c'est une question que se posent évidemment beaucoup de Français, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour régler cette crise. Et c'est important de le dire parce que
pour eux, c'est un impôt déguisé.
Les Français ont l'habitude que, à l'occasion d'une crise, on finisse toujours par augmenter les impôts. Là, il y a un engagement qui est pris et on va même continuer à les baisser. Dans le plan de relance, 20 milliards d'euros de baisse des impôts de production pour nos PME, pour nos TPE, qui vont payer moins d'impôts.
Pourquoi 0,6%? Vous ne dites pas, vu la situation, on bloque cette hausse.
Sur la question du prix du gaz, on a un prix qui est fixé par une commission indépendante qui s'appelle la CRE, qui a prévu, je crois, une augmentation de 0,6%, 0,2% pour la cuisson, il me semble, et 0,6% pour le reste. On a en France, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, des tarifs qui sont réglementés pour protéger les consommateurs. Il y a cette décision qui a été prise. Je crois qu'elle fait suite à plusieurs baisses importantes. Donc il faut regarder le ratio entre les deux. Et ce que je peux vous dire, s'agissant de nous, puisque cette commission est indépendante, c'est qu'on a à cœur, depuis maintenant un certain temps, de compenser le prix de l'énergie pour les Français modestes. Le chèque énergie, c'est un chèque de 150 euros en moyenne qui est versé à des Français qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à payer leurs factures. Il a été versé à 5,5 millions de foyers. On a augmenté de 2 millions le nombre de bénéficiaires sur un an.
On parlait de mouvement de contestation sociale. Il va y avoir un mouvement le 12 septembre, puis le 17 septembre par la CGT. Est-ce, vous aviez parlé de grévitude, fut un temps. Hein, vous êtes rendu célèbre pour ce mot. Est-ce que vous dites là aussi à la CGT, ce n'est pas la peine d'aller contester dans la rue?
Moi, ce que je dis, c'est que je ne comprends pas le sens de cette mobilisation, de cette manifestation. Je ne comprends pas sur le fond. Parce qu'on a, je l'ai dit à l'instant, un plan de relance qui va venir investir massivement plusieurs milliards d'euros pour améliorer le fret ferroviaire, les trains de nuit et les lignes de train dans notre pays. À un moment où on reprend massivement la dette de la SNCF et où il y a un investissement du budget de l'État pour reprendre la dette de la SNCF. Et à un moment, on a besoin que toutes les forces soient dans la bataille pour que l'économie du pays
donc
se relance.
Donc vous leur dites annuler cette grève, pensez-y.
Il y a une liberté syndicale dans notre pays d'appeler à la grève, elle est constitutionnelle. Mais moi je dis que je ne comprends pas cette mobilisation. Je la trouve incompréhensible dans le contexte et pour les raisons que je viens d'évoquer.
Et Jean-Marie Bigard qui sera à la tête d'une manifestation le 12 septembre, un événement qui est organisé sur Facebook.
Il faut dire pourquoi on manifeste. Il faut dire
quels sont ceux qui sont mécontents.
Oui, tous ceux qui sont d'accord.
Voilà ce
moi, ce que j'ai vu dans mes déplacements, je vais vous dire, j'ai vu des gens qui posaient des questions, j'ai vu des gens qui faisaient des critiques, notamment sur le sujet du masque et des évolutions qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, ce que j'ai vu, c'est que tous les Français que j'ai rencontrés ont considéré que la promesse du président de la République sur le quoi qu'il en coûte pour protéger les Français en termes de salaire et en termes d'emploi, elle a été tenue.
Mais qu'est-ce que vous y voyez? De l'opportunisme, une manière de préparer l'élection présidentielle pour certains? Qu'est-ce que vous y voyez?
De la part de certains, une volonté
d'instrumentaliser?
Oui, d'agiter les peurs, d'agiter les doutes, les inquiétudes. Je ne pense pas que ça soit très responsable dans le contexte, mais encore une fois, chacun est libre de se mobiliser. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens.
Inquiétude sur l'insécurité, notamment. C'est un dossier important de la semaine, Marion Mourgue.
C'est une des préoccupations des Français, cette insécurité et cette impression d'une augmentation des actes très violents. La droite vous accuse de slogans, de gros mots d'ensauvagement qui a été utilisé par Gérald Darmanin. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que, par exemple, vous reprenez l'idée de Bruno Retailleau de prison spéciale pour des courtes peines?
D'abord, ils nous accusent de slogans. Chacun constatera dans la presse que depuis quelques jours et quelques semaines, c'est eux qui sont dans une rivalité de slogans dans le cadre de la primaire de la droite pour l'élection présidentielle. C'est une évidence. Et on n'a pas que des slogans, on a des actes. Depuis 2017, plus 1 milliard d'euros sur le budget de la sécurité. 10 000 policiers recrutés. Les heures supplémentaires payées, ça faisait des décennies qu'on ne les payait pas. Une prime de nuit mise en place. Toute la flotte de voitures de la police qui est en train d'être renouvelée pour que ça soit plus confortable.
Ça paye, parce qu'il y a quand même des actes extrêmement choquants encore.
J'y viens. Maintenant, il y a toutes ces mesures et cet investissement qui est mis. Et je ne suis pas là à dire tout va très bien, Madame la Marquise. Et sur le terrain, les gens ne ressentent pas la sécurité, ne voient pas l'insécurité devant eux. Évidemment, je me déplace aussi et les gens m'interpellent sur ces questions-là. Mais je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas d'actes qui sont mis en place.
Mais la droite vous accuse justement que les peines ne soient pas appliquées.
Mais qu'est-ce qu'elle propose? Enfin, je veux dire, on a un garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est résolu à avancer sur ce terrain-là. Il le dit depuis le début. Ses premières déclarations, ça a été de dire « Je veux que les sanctions soient prononcées plus rapidement et de manière plus efficace dans notre pays. » Il n'y a pas plus clair. Et il a dit qu'il était totalement ouvert à toutes les propositions qu'on pouvait faire. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il propose dans ce qui est avancé?
Il propose beaucoup de choses. Rachida Dati, ce matin, la responsabilité pénale à 13 ans.
Je vais y venir, mais j'ai vu qu'il proposait, par exemple, le retour des peines planchers. Bon, ça a été mis en œuvre, on a vu que ça ne marchait pas. Il y a eu un constat d'échec qui était largement partagé à l'époque. Donc, qu'ils inventent aussi, peut-être, mesures nouvelles.
Sur la responsabilité pénale à 13 ans,
je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là et des questions pénales. Mais enfin, aujourd'hui, il y a une responsabilité pénale. La question, ce n'est pas celle de la responsabilité, c'est celle de la détention et de ce qu'on privilégie.
Alors, quand Bruno Retailleau dit, on fait des prisons spéciales pour accomplir les courtes peines, puisque justement, il y a un problème sur l'exécution de la peine, surtout quand elles sont courtes. Qu'est-ce que vous répondez?
Aujourd'hui, on crée des places de prison. On est dans un plan de construction de 7000. Et s'agissant des jeunes et des mineurs que vous évoquez, il y a aujourd'hui une alternative, que sont les centres éducatifs fermés. Et on continue à investir sur ce sujet-là. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, il est en ce moment à Nice pour lancer la construction d'un nouveau centre éducatif fermé. Et on va continuer à en lancer, justement, pour répondre à ce sujet-là. Mais Il n'y a pas de solution et de baguette magique, contrairement à ce que certains essayent d'avancer. Il y a une action résolue de notre part. Il y aura de nouvelles mesures qui seront annoncées, puisque le président de la République a souhaité que dans le séminaire gouvernemental qu'on aura le 9 septembre, cette question de l'ordre républicain soit au cœur de nos travaux.
Sur le diagnostic, Gabriel Attal, est-ce que vous partagez le constat qu'il y aurait un ensauvagement de la société ?
Moi, c'est une question qui m'a déjà été posée. Et je trouve que quand on s'enferme dans des débats sémantiques, on demande aux gens de prendre position sur un mot, est-ce qu'ils sont pour ou est-ce qu'ils sont contre, on oublie le vrai sujet. C'est-à-dire prononcer un mot, ça n'a jamais réglé le problème qu'on voit dans des cages d'escalier ou dans des quartiers.
Le diagnostic, c'est pas très important en réalité parce que ça permet de...
Mais il y a un diagnostic qui a une banalisation de la violence dans notre pays, comme dans beaucoup de pays occidentaux.
Mais c'est pas trop faible comme terme, banalisation, justement par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Encore une fois, moi, ce que je dis, c'est que... Je pense que les Français, ils ont beaucoup entendu de termes prononcés dans le débat public depuis des années ou des décennies. Bah, et la question qui se pose, c'est ce que ça change concrètement pour eux dans leur quotidien.
Celui d'un sauvagement, est-ce que vous le reprendriez
Ce que je vous dis à l'instant, c'est que moi, je ne vais pas me lancer dans un truc mais où je me positionne en permanence sur un mot ou pas. Mais ouais, moi, je dis à tout le monde qu'il n'y a pas de mot magique et il n'y a pas de mot tabou. On ne peut pas être interdit de prononcer un mot, mais on ne peut pas non plus considérer qu'un mot va régler tous les problèmes. Ce qu'il faut, c'est agir. C'est ce que fait Gérald Darmanin. C'est ce qu'on va faire avec Éric Dupond-Moretti. Je veux terminer sur ce sujet-là. Parce que le sujet, on voit bien, c'est aussi la violence du quotidien, la violence qui a lieu dans certains territoires, dans certains quartiers, où il y a parfois une forme d'impunité qui est ressentie.
Vous avez parlé, du séminaire gouvernemental qui est prévu début septembre, mais la semaine prochaine, le président a dit qu'il en parlerait. Vendredi, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Dans quel contexte, dans quel cadre? C'est ce qu'il évoquait hier, devant la presse présidentielle. Il évoquait un discours vendredi à ce sujet.
Je peux vous confirmer qu'il fera un discours vendredi, à l'occasion des 150 ans de la République.
Au Panthéon, c'est ça?
Au Panthéon, je crois.
C'est ce que dit le Parisien. Vous n'êtes pas moins bien informé que le Parisien, enfin peut-être que ça.
J'imagine que son discours portera sur ces sujets-là, mais je ne vais pas vous faire le discours avant l'heure. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une grande priorité, c'est la justice de proximité. Parce qu'au fond, je disais à l'instant, on renforce les moyens de la police pour être en mesure d'appréhender ceux qui commettent des crimes, des délits ou de la délinquance. La question, c'est la sanction qui vient derrière. Il faut qu'elle arrive vite, il faut qu'elle soit exécutée. Il faut finalement qu'on en revienne à cette idée de tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Et ça, c'est une vraie ambition d'Éric Dupond-Moretti. Un gamin qui tague un mur, il faut que le lendemain matin, il soit en train de nettoyer le mur. Et ça, ça va être un vrai investissement de notre part. Et il y a des mesures qui vont être annoncées pour y parvenir.
C'est l'heure de Question Express.
Le Grand Jury, Question Express.
Gabriel Attal, pour ou contre le changement de titre des Petits Nègres d'Agatha Christie?
Contre.
Vous pensez qu'on aurait dû garder ce titre-là?
Ils font ce qu'ils veulent. En plus, je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui s'est positionné sur ce sujet-là. Mais moi, d'une manière générale, je trouve que regarder à la lumière d'aujourd'hui des œuvres ou des titres qui ont été donnés il y a un certain temps...
C'est comme ne pas déboulonner les statues
d'esclavagistes. Oui, voilà. On ne règle pas les problèmes d'aujourd'hui en regardant le titre qui a été donné à une œuvre d'hier. Voilà. Et bon, après...
Pour ou contre la prolongation des terrasses éphémères à Paris?
Pour, si ça se fait dans le cadre...
Qui devront être chauffés l'hiver.
...de sécurité sanitaire, évidemment pour.
Si ça permet écologique.
Si ça permet aux restaurateurs, aux cafetiers de continuer à accueillir du monde sur leurs terrasses, évidemment...
Pour. Pour ou contre Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale?
Alors là, pour le coup, je connais la règle de dire pour ou contre. Il y a une séparation des pouvoirs, il y a un groupe La République En Marche qui est indépendant du gouvernement, donc je n'ai pas moi à dire qui doit être élu président.
Vous avez une préférence personnelle, mais vous ne la donnerez pas?
Je ne la donnerai pas. C'est un moment important pour la vie du groupe, ça je veux le dire, parce qu'on voit bien qu'on est à un moment charnière dans le pays, mais aussi dans la vie de la majorité. Et voilà.
On attendra peut-être que vous donnerez votre réponse plus tard, une fois qu'il sera élu ou pas. Pour ou contre, Gabriel Attal, la GPA, la gestation pour autrui?
Il y a un engagement du président de la République qui est qu'il n'y aura pas de GPA légalisée.
Vous, personnellement?
Il y a un engagement du président de la République qui dit qu'il n'y aura pas...
Pourquoi on ne peut pas s'exprimer personnellement sur cette question vous êtes citoyen, avant d'être porte-parole, vous pouvez avoir une conviction là-dessus.
Oui,
ça engage le gouvernement.
Je pense que... Je suis porte-parole du gouvernement. Je sais que quand je m'exprime sur sur tous les sujets, ça peut être instrumentalisé par certains pour dire que ça engage la position du gouvernement. Mais je pense que vous aurez compris dans ma réponse quelle est ma tendance personnelle très intime et très profonde.
Elle est favorable à la GPA.
Je n'ai pas dit ça.
Contre Lionel Messi au PSG?
Pour, ça serait super pour le PSG.
C'est dit. Et on passe à notre nouvelle rubrique, retour instantané. Vous allez voir, il a été l'un de vos prédécesseurs. On l'écoute.
Le grand jury, retour instantané.
Le gouvernement n'est pas là pour se cacher. Ça fait tellement d'années que ce pays, la France, notre pays, attend un gouvernement courageux qui mette en œuvre les réformes nécessaires pour le sortir de la crise. Nous ne sommes pas là, les 29 ministres autour du Premier ministre, pour nous cacher. Nous sommes là pour faire notre devoir et prendre nos responsabilités, même si c'est difficile.
C'était le 24 octobre 1993. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, Nicolas Sarkozy? Vous avez rencontré certains de vos prédécesseurs pour leur demander des conseils. Il a été porte-parole. Est-ce que vous souhaiteriez rencontrer? Est-ce qu'il peut vous inspirer dans vos fonctions?
Alors moi, ce qui est certain, c'est que vous avez dit en commençant cette émission que c'était un boulot très difficile. Chacun aura constaté en la regardant, notamment face à vous, que c'est effectivement très difficile. Et que pour ça, je pense que la meilleure des façons de le réaliser, c'est de regarder en toute humilité les conseils que peuvent vous donner vos prédécesseurs. Donc effectivement, je rencontre mes prédécesseurs.
Et vous avez demandé à Nicolas Sarkozy
François Baroin, Stéphane Le Foll, je vais voir Jean-François Copé, Luc Châtel.
Et Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez demandé à le rencontrer?
J'ai pas fait de demande parce que je considère que c'est un ancien président de la République et qu'il est très occupé, mais pourquoi pas, ouais. Je pense que ce serait intéressant.
Écoutez, l'appel est lancé. L'ancien président de la République a dit récemment, en début de semaine, qu'il manquait de leadership en France, au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Moi, je n'ai pas entendu ses déclarations. S'il dit
qu'il faut un vrai
problème d'autorité dans notre pays, d'une manière générale, évidemment, et d'ailleurs le président de la République l'a dit aussi, je crois, devant vous, dans l'échange qu'il a eu. Il y a un enjeu de retour à l'autorité dans notre pays qui passe partout. Évidemment, les personnes en uniforme qui incarnent l'État, les professeurs dans nos écoles. Et ça, c'est un enjeu auquel on va continuer à s'atteler.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Gabriel Attal. Alors on commence avec un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a réagi il y a quelques instants et qui demande à ce qu'on accueille en France les migrants du navire Louise Michel qui les a recueillis au bord de la Méditerranée, au large de la Méditerranée. Il faut qu'on les accueille vite et maintenant. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous vous y engagez?
Moi je réponds que, en cohérence avec ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, il faut que l'Europe se mobilise pour accueillir les personnes qui en ont besoin et que chaque pays européen prenne sa part. Et dans ce cadre-là, moi, je souhaite que la France, avec les autres, c'est pas que je souhaite, c'est que, évidemment, on va, avec les autres pays européens, avec nos voisins, répondre à cette situation comme on l'a fait.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour accueillir ce bateau? Marseille, la ville de Marseille s'est dit prête, souhaite qu'il accoste à Marseille. Est-ce que vous dites oui, nous le souhaitons aussi?
Mais ce que je dis, c'est qu'on prend notre part avec nos voisins européens pour accueillir les personnes qui sont en détresse.
Est-ce que c'est prendre la part que d'accueillir ce bateau affrété par l'artiste britannique, je le rappelle, Bansky?
Alors, je ne sais pas où est ce bateau, parce que la règle qui a été fixée, c'est qu'il est accueilli dans le port sûr le plus proche, et qu'à partir de là, il y a les personnes qui sont secourues sur le bateau, qui sont prises en charge par différents pays européens. Je crois que le dernier bateau en date, il avait été accueilli en Espagne. La France a pris sa part et a accueilli des personnes qui étaient en danger. Et on continuera à le faire.
Si on doit accepter ce bateau et puis après, éventuellement, en répartir les migrants.
Ce que je vous dis, c'est que je ne sais pas où le bateau devra accoster pour des raisons
de
sécurité.
Est-ce que vous souhaitez qu'il accoste? S'il veut accoster en France, qu'est-ce que vous lui répondez?
Il doit accoster devant le port sûr, le plus proche de lui. C'est comme ça.
Donc
que ça
si c'est un port français, ce sera un port français.
J'imagine, oui.
Parfait, c'est entendu. Marie-Pierre Haddad.
Oui, vous avez évoqué durant cette émission la rentrée scolaire. Donc c'est vraiment un sujet qui. Il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens pour les internautes, notamment. Un internaute qui vous demande par rapport au masque comment concrètement va se dérouler les cours de sport et les repas à la cantine pour les élèves à l'école.
Alors, il y a un protocole sanitaire, je l'ai dit, qui est disponible sur le site de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, qui permet de donner des recommandations au niveau local. Exemple sur la cantine, on recommande de faire plusieurs services pour éviter qu'il y ait trop de monde de manière bondée en même temps dans la cantine, qu'il y ait moins de groupes qui se croisent. Tout ça est mis en œuvre en lien avec les collectivités locales. Et pour les cours de sport, se tiennent dans le cadre du protocole sanitaire qui existe pour les activités sportives d'une manière générale, pour éviter les risques de transmission. Et donc, il y a toutes les garanties sanitaires qui sont données.
Et sur un tout autre sujet, Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la suppression de la chasse à la glu. Alors, vous savez, ça provoque toujours des réactions très, très contradictoires sur les réseaux sociaux. Mais le gouvernement autorise de l'autre côté la chasse de la tourterelle des bois, alors que c'est une espèce qui est classée comme vulnérable. Donc, Aurore et Pascal et d'autres internautes parmi eux ne comprennent pas votre choix. Et Lucien vous dénonce le double langage du gouvernement. Est-ce que vous comprenez cette incompréhension?
Moi, d'abord, je me réjouis de la décision qui est prise sur l'interdiction de la chasse à la glu. En tant que parlementaire et en tant que membre du gouvernement auparavant, je me suis beaucoup mobilisé sur les questions de bien-être animal et je continuerai à le faire. Et ceux qui réclament depuis des mois ou des années cette interdiction de cette pratique, au moment où on la met en œuvre, on les entend à peine se réjouir de cette interdiction. Je comprends que des questions soient posées sur d'autres pratiques, mais vous l'avez dit, c'est une autorisation encadrée, avec un quota qui est donné, justement parce que c'est une espèce classée comme vulnérable,
pour vous,
et qu'on veut éviter sa disparition. Moi, je suis solidaire du choix.
Il y a un secrétaire d'État au bien-être animal, il devait y en avoir un. On n'a pas vu de secrétaire d'État au bien-être animal, finalement. Pourquoi ?
Je ne sais pas s'il devait y en avoir un, ça c'est vous qui le dites.
C'est ce qu'on avait entendu dire. Voilà. Non, c'était une rumeur.
Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que et Barbara Pompili et Julien de Normandie sont très mobilisés sur cette question. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que en tant que porte-parole, c'est peut-être pas dans mes attributions, mais je vais continuer à me mobiliser sur ce sujet-là.
Merci Gabriel Attal, merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Belle semaine, à la semaine prochaine.